Le temps des fêtes est le moment idéal, évidemment, pour faire des rétrospectives de ce qui s'est passé dans les différentes facettes du joyeux monde du sport. Parlons de tennis maintenant. C'était une année incroyable au tennis canadien. En fait, est-ce le début d'une longue tradition d'excellence pour les Canadiens? On en parle avec Hélène Pelletier qui est avec nous. Salut Hélène!
Oui, bonjour Jérémy.
Hélène, quelle année incroyable pour les Canadiens et je pense qu'on doit débuter, on doit mettre au haut de la liste Bianca Andreescu qui devient la première Canadienne, la première joueur professionnelle au Canada à remporter un tournoi majeur. C'était tout simplement spectaculaire cette année pour Bianca Andreescu.
Et quand on, tu vois, ça s'apprend, hein? Ça s'attrape aussi cette maladie que de gagner, que d'exceller. Ça a commencé tout ça évidemment avec Miloš Raonic qui a fait de très très belles choses au début des années 2010. Par la suite Eugénie Bouchard évidemment 2013, 2014, sa grosse année en Grand Chelem et ça a fait des petits. Et puis honnêtement moi je lève mon chapeau à tous les dirigeants, tous ceux qui travaillent dans l'ombre et qui finalement sont récompensés de voir leur protégé comme ça faire de si belles choses. Mais c'est vrai que Bianca Andreescu honnêtement elle nous a fait vivre des émotions qu'on pensait pas vivre de si tôt, en fait. Et quand on parle de plusieurs joueurs qui ont excellé, c'est aussi chez les juniors, hein, parce que 14 joueurs au total ont remporté un nombre incroyable de titres, que ce soit chez les amateurs, les juniors, dans les tournois Challenger et dans les grands événements, comme ce que Bianca et Denis Shapovalov ont réussi à faire. On parle de 27 titres au total. Alors, Bianca, elle en a gagné 4, dont le Challenger aussi de Newport Beach, qui a une grande importance dans son année. Le tournoi d'Indian Wells est allé, évidemment, à travers ses blessures, gagner, revenir et gagner le tournoi de Toronto et puis le US Open, ce qu'elle a réussi à faire, stopper la grande championne qui est Serena Williams, qui tente toujours d'aller récolter un 24e titre Grand Chelem en simple pour égaler la grande Margaret Court. Honnêtement, c'est fabuleux. Elle a même atteint, à un moment donné, au mois d'octobre, la 4e place mondiale, termine l'année 5e, alors qu'elle était quoi? Quelque chose comme 152e en début d'année?
Mmh, exactement.
Alors, ce sont des progrès extraordinaires.
Hélène, dis-moi, dans les milieux bien branchés du tennis et vous, les experts, est-ce que vous aviez vu venir Bianca Andreescu? Parce que lorsqu'on a demandé à Sylvain Bruno de quitter la direction de la Fed Cup pour s'en aller, en fait, chez les dames, être entraîneur chez les dames à la Fed Cup pour l'équipe canadienne, et s'en aller du côté de Bianca Andreescu, j'étais surpris. Je me suis dit, mon Dieu, on voit quelque chose dans cette jeune-là. Est-ce que toi, tu avais vu venir le succès potentiel d'Andreescu?
Ben, c'est sûr qu'elle a toujours excellé très, très jeune. Tu sais, Jérémy, on a tendance à peut-être moins suivre nos jeunes qui montent. Évidemment, on parlera tout à l'heure de Leila Hany, évidemment, Fernandez, qui a gagné Roland-Garros, qui a fait la finale aux Internationaux d'Australie chez les juniors et qui est passée chez les pros. Donc, elle, on l'a tout de suite, évidemment, repérée dans nos radars parce qu'elle est allée très, très loin dans les épreuves. Mais Bianca Andreescu a été une jeune qui battait des 18 ans à 12 ans. Un peu comme Michael Chang faisait exactement la même chose. André Agassi faisait la même chose. Tous ceux qui excellent, ben ils gagnent des choses aussi très tôt chez les seniors, chez les pros, comme Chang avait gagné Roland-Garros à 17 ans en 1989. Mais ça, nous, on pense que ça arrive de nulle part. Puis c'est vrai que c'est une immense surprise. Écoute, on n'oubliera jamais son service à la cuillère pour faire en sorte qu'Ivan Lendl était devenu tellement, tellement nerveux et avait perdu le match justement devant Chang, qui remporte le titre devant Edberg. Mais est-ce qu'on avait vu venir? Moi, tout ce que j'ai su, tout ce que j'ai vu d'elle, ça m'avait impressionné. Mais jamais pour dire qu'elle allait gagner Indian Wells, Toronto, Newport Beach et puis le US Open. Ça, c'est arrivé, là. Mais on a vu quand même une progression au début de l'année. Puis ça a commencé très, très fort, si tu te souviens bien, avec le tournoi de la Nouvelle-Zélande, alors qu'en 9 jours seulement, elle avait joué 8 matchs au total, 3 dans les qualifications. Puis là, elle enchaîne les victoires devant Timea Babos d'abord, dans le grand tableau. Par la suite, elle bat Venus Williams. Là. Attention, là, tu sais, on regarde comme fou nos écrans matin en se levant pour s'assurer qu'on n'a pas lu ça à l'envers. Et puis, elle enchaîne avec celle qui était la championne en titre aux internationaux d'Australie, Caroline Wozniacki. Et là, tu dis, attends un peu, là. C'est vraiment très, très fort. Et là, tu commences à regarder, tu vois, ces matchs sur Internet. Et là, moi, quand j'ai vu sa qualité de balle, mais je te dirais que tout ça a commencé un petit peu avant. Alors que déjà M. Louis Borfiga, et c'est à lui que revient évidemment beaucoup de cet honneur que, de voir comme ça Bianca éclore aussi rapidement, parce que tout de suite, il sentait qu'elle avait besoin d'un homme d'expérience. Puis dans le fond, souvent, évidemment, la relation entre coach et élève, moi j'aime cette expression française qui est souvent utilisée, il faut que le coach soit quelqu'un qui comprend la jeune, il faut que la jeune respecte le coach, il faut qu'il y ait cette espèce de quelque chose d'indéfinissable qui fait en sorte que la relation, elle est remplie d'humilité, elle est remplie de reconnaissance, elle est remplie de respect, et que Bianca a capté très rapidement que Sylvain Bruneau voulait le meilleur d'elle-même, puis il pensait jamais à lui là-dedans, il voulait qu'elle excelle à tout point de vue. Et Sylvain avait passé tellement de temps d'abord à suivre les juniors, tout le temps chez les filles. Donc, toutes celles qui sont sur le grand circuit, il les a vues jouer à la tonne chez les juniors. Il a comme grandi en tant que coach avec elles. Et puis, il s'est retrouvé avec une perle rare, une fille qui, et ça, c'est très rare, Jérémy, qui est capable de tout faire sur le terrain. Parce que la plupart des filles ont une filière. Ou peut-être une ou deux, mais rarement trois, quatre et cinq. Tu comprends? On joue d'une seule manière. Je vais jouer mon jeu. J'ai pas de plan B. Ça, on entend ça et on le voit souvent sur le circuit des dames. Mais elle, elle est rapide. Elle a de la variété dans son jeu. Elle a beaucoup d'énergie. Elle a de la puissance. Elle est travaillante. Elle a de la touche. Elle est combative. Elle n'a pas peur. Et puis, elle a énormément de désir. Puis, elle écoute bien. Alors, au-delà de tout ça, rares sont des filles qui sont capables de changer la direction, de faire des amortis, d'aller chercher des balles hautes. Alors, Sylvain a eu l'intelligence de la faire travailler comme si elle avait un jeu d'homme, c'est-à-dire plusieurs facettes à développer dépendamment du type de joueuse qu'elle a devant. Parce que c'est pas tout de jouer son jeu au tennis, c'est de faire mal jouer l'autre. Et si ta balle, l'autre l'aime, ben ça va mal pour toi cette journée-là. Mais elle peut changer, elle peut varier, elle peut faire d'autres plein de choses. Alors, je pense que ça a été la chimie est tellement bonne entre les deux. Et la seule chose, évidemment, qui nous inquiète, ce sont les blessures dans son cas, parce que son potentiel, il est illimité. Puis on l'avait vu à la fin de l'année 2018, alors que là, elle revenait de blessure encore une fois. Sylvain avait dit, on va aller jouer 6 tournois, des petits tournois au Canada, aux États-Unis, mais en 5 semaines de suite. Et puis, elle avait fait elle avait gagné 2 titres, elle avait fait des demi-finales. En tout cas, elle avait perdu juste 3 matchs durant cette séquence-là. Ben, c'était très, très bien entraînée par la suite, avant le début de la saison 2019. Puis, ça a commencé avec un bang, mon ami. C'est comme si son talent et son jeu est très demandant, hein, parce qu'il est rempli de puissance. Donc, c'est comme si son talent et sa puissance, c'est comme si son cadre, le corps, est incapable de soutenir tout ça parce que ça arrive trop vite à un niveau trop élevé. Si je m'explique.
Non, on comprend très bien. On comprend très, très bien. Et ça serait important.
C'est ça qu'il faudra gérer.
Exactement. Ça serait important de bien gérer. Je veux qu'on prenne quelques instants pour parler de Sylvain Bruneau. On a vu durant les différents tournois, on a eu la chance de l'entendre par moment, la façon dont il trouve le moyen de parler à Bianca Andreescu, de la façon dont il contrôle, j'allais dire contrôle son esprit, mais du moins essaie de bien encadrer son esprit pour pas qu'elle perde un peu le nord dans ce match-là. Vraiment, on voit un coach de grande qualité avec Sylvain Bruneau.
Oui, puis tu sais, ce qui est intéressant aussi, c'est que, dans le fond, là, chaque personne, et nous, on n'est pas coach présentement, on est plus comme des enseignants et des gens qui participons à cette fête-là dans le monde du sport, puis notre rôle, c'est d'essayer d'exprimer les pensées de ce qu'on voit sur le terrain ou sur la patinoire. Mais dans le fond, chaque humain, tu sais, il y a 3 instances internes qui nous animent. On peut avoir la dimension du parent, soit la personne qui va communiquer selon un registre de jugement. « Ah là, t'as fait ça, fais pas ça, parce que si tu fais ça, c'est ça qui va arriver. » L'adulte, qui va arriver plus avec des faits, hein, du point de vue du registre factuel, ou bien réagir comme un enfant, c'est-à-dire complètement dans les émotions. Alors, du côté des dames, nous sommes évidemment, c'est un sport qui est tellement demandant, le tennis, Jérémy, quelquefois tu es au bout de toi-même, tu penses que tu vas virer fou, tellement tu es déçu de ce que tu fais, et puis tu es poussé à bout physiquement. Alors là, ton coach arrive sur le terrain et tu es complètement comme un petit enfant désemparé. Et lui, il sait quel registre utiliser pour capter, la relancer, jamais la juger, mais la relancer et la remettre en 1 minute 20 secondes, remplie d'énergie, positive, prête à aller au combat et comment utiliser la bonne arme pour se sortir peut-être d'une situation difficile ou pour continuer dans le même élan. Et c'est ça qui est fabuleux parce que c'est pas facile à faire.
Ah, clairement, mais surtout, il trouve le moyen de dire les bonnes paroles au bon moment. Maintenant, donc, Bianca Andreescu, présentement 5e joueuse mondiale. Je regardais le top 4 devant elle. On parle de Barty qui est là, on parle de Pliskova, on parle d'Osaka, on parle de Simona Halep. Écoute, la possibilité est là, peut-être, si les blessures ne minent pas son jeu sur le terrain. Mais si ça va bien, il y a une possibilité pour voir Bianca Andreescu peut-être atteindre le premier rang mondial.
Bien, surtout, écoute, il y a eu de longues périodes où elle n'a pas joué, donc elle a plein de points. Oui, elle a des points à refaire. C'est évident qu'elle aura en fin d'année avec Toronto, avec sa participation au championnat de fin de saison, avec le titre à New York, ça c'est déjà beaucoup, beaucoup de points, on s'entend. Donc elle aura tout ça à faire, mais le tournoi de Nouvelle-Zélande, elle ne va pas le jouer parce qu'elle est encore en train d'essayer de récupérer de cette blessure au genou. Donc j'espère qu'elle sera en mesure de jouer aux internationaux d'Australie, parce que l'année dernière, lorsqu'elle s'était présentée, évidemment, il y avait eu toute la séquence en Nouvelle-Zélande, et puis elle était déjà extrêmement fatiguée. Elle était prise pour jouer parce que son classement ne s'était pas encore amélioré suffisamment. Elle partait de trop loin, donc elle était dans les qualifs aussi en Australie. Elle s'était qualifiée, mais par la suite, elle avait été prise d'épuisement, donc elle n'était pas allée loin. Donc, elle a des points qu'elle peut aller chercher là. Le tournoi d'Indian Wells vient assez vite, mais au mois de mars. Et en plus, Jérémy, il faut éviter de la faire jouer trop parce qu'à chaque tournoi auquel elle participe, il faut s'imaginer quelque part qu'on peut pas être 3 semaines de suite en compétition parce que ça se peut qu'elle gagne le tournoi. Mmh. À chaque tournoi où elle jouera, si elle est en forme, si elle n'est pas blessée, elle peut le gagner. Alors maintenant, il faut que tout le monde suive la parade dans l'entourage de Tennis Canada. Et pour Sylvain aussi, c'est une nouvelle étape, cette deuxième année. Après ce qu'on a vécu avec Eugénie Bouchard, on a appris beaucoup. On se souvient jusqu'à quel point l'année 2015 et les autres qui ont suivi ont été compliquées. Ben là, faut éviter de la faire trop jouer pour qu'elle se blesse et que là, elle dégringole au classement parce qu'elle n'est pas capable de défendre les points qu'elle a. Mais toute la période, Roland-Garros, tout le printemps sur terre battue, Roland-Garros, Wimbledon, elle n'a pas joué Wimbledon. Alors tout ça, elle peut aller chercher beaucoup, beaucoup de points et devenir une joueuse, évidemment, tout terrain. De toute façon, avec le jeu qu'elle a, c'est sûr qu'elle a grandi sur terre, en Roumanie, puis elle va être bonne sur toutes les surfaces parce qu'elle est capable d'allier puissance et touche. Donc ça, c'est pas inquiétant, mais il va falloir d'abord qu'elle soit à 100% et que jamais elle ne joue maintenant s'il y a un pincement, s'il y a un problème parce que la compétition est trop dure et elle aura beaucoup de pression. Tout le monde l'attend maintenant.
Sens-tu que Bianca Andreescu a ce qu'il faut pour éviter, parce que tu as fait référence à Eugénie Bouchard, puis encore là, je veux pas tomber sur le dos d'Eugénie Bouchard, mais on a vu, il y a beaucoup d'effervescence à l'extérieur du terrain après son année record pour elle, où elle a atteint les plus hauts sommets du côté de la WTA. Est-ce que tu penses que Bianca Andreescu est un peu plus terre-à-terre que ce qu'on a pu voir du côté d'Eugénie Bouchard?
Ben, en fait, je pense que la petite différence, c'est que... Et moi, je peux juste te dire ça là, de l'extérieur du terrain, parce qu'évidemment, je ne l'ai pas suivie à temps plein sur place avec elle, voir comment elle réagissait entre ses matchs, entre ses victoires en 2013-2014. Mais ce que je te dirais, ce que j'ai pu en déduire, et avec les gens avec qui j'ai parlé, c'était que son ascension, elle était complètement folle et imprévue, Eugénie Bouchard. Mm-hmm. On s'attendait à ce que d'abord elle devienne top 50, par la suite top 40, mais tout s'est passé extrêmement vite. Et en plus, comme c'est une reine de beauté, il lui est arrivé toutes sortes d'offres qui sont venues un peu la faire dérailler, des choses dont elle avait rêvé. La différence avec Bianca, c'est que Bianca, elle veut pas juste gagner un grand chelem. Les rêves de Bianca Andreescu, puis elle fait beaucoup de visualisation, comme tu le sais, et pour elle, c'était pas juste un grand titre. Puis c'est allé étape par étape. D'ailleurs, le premier grand titre Indian Wells, gagné chez elle à Toronto devant sa famille et ses amis, sa nouvelle patrie, le Canada, c'était grandiose. Même s'il n'y a pas eu de finale, là, c'était quand même grandiose parce qu'elle revenait au jeu. Et puis de gagner le US Open, pour elle, c'est une première étape. Donc, elle le sait qu'avec ça, et puis elle est bien entourée, je le répète, avec ça, il y a des sacrifices. ça va pas tomber du ciel si elle s'amuse à aller à gauche, à droite, puis à sortir le soir, puis à manger des hamburgers puis des frites, puis faire la reine de beauté sur une base régulière et de se perdre un tout petit peu dans le glamour, ça va pas arriver. Et comme pour elle, les rêves de gagner plusieurs titres Grand Chelem et de devenir numéro un mondial, c'est bien ancré en elle, ben je pense qu'elle est très intelligente, la jeune, puis elle le sait, que ça va pas venir avec autre chose qu'une immense discipline qui va avec la vie de tous les grands champions.
Eh bien, ça sera toute une saison à suivre, évidemment, du côté de Bianca Andreescu. Si tu veux bien, Hélène, on va faire une courte pause, puis au retour, si on s'est dit qu'on a vécu un moment historique avec Andreescu, que dire des garçons qui ont atteint la finale de la Coupe Davis? Shapovalov, Ali Yassim, Raonic, les trois ont été évidemment impressionnants cette année, mais dans le cas de la Coupe Davis avec Shapovalov et Félix Auger et Ali Yassim, entre autres, on a vu vraiment, la suite peut être vraiment intéressante du côté du Canada. On fait une courte pause, on écoute quelques messages et au retour, on poursuit cette revue de presse de l'année en tennis. On est de retour à cette revue de l'année en tennis en compagnie d'Hélène Pelletier. Hélène, avant d'aller à la pause, on a parlé de cette finale historique pour les Canadiens en finale de la Coupe Davis. Écoute, comment t'as vécu premièrement de voir les gars, de voir les garçons être capables de se rendre jusqu'en finale en Coupe Davis?
Honnêtement, là, moi, j'avais hâte de voir cette Coupe Davis, ce nouveau format, parce que, évidemment, c'est sûr que c'était super excitant, là, tout un week-end, vendredi, deux gros matchs de simple au meilleur des 5-7, le double samedi, et le dernier jour où les matchs peuvent être d'une grande, grande importance, deux autres matchs de simple potentiellement au meilleur des 5-7, mais le format, dans la vie d'aujourd'hui, ne fonctionnait plus parce que les meilleurs joueurs ne jouaient plus. Alors, ça donne rien de pleurer sur une formule qui datait de plus de 100 ans, qui ne fonctionne plus aujourd'hui, et donc, on fait ça à la Kayamaika pour les deux premières années de cette nouvelle formule, cette année donc. À l'intérieur, évidemment, à Madrid, sur une surface quand même assez rapide, et on a un Vacek Pospisil qui revient au jeu, qui est tout feu, tout flamme, dont le jeu est absolument parfait pour exceller dans ce genre de conditions. On venait de battre Khachanov, avait battu aussi Diego Schwartzman tout récemment, des tournois Challenger. Il était vraiment sur une belle lancée après avoir été sur le carreau longtemps en raison d'une opération quand même assez grave au dos. Puis une nouvelle attitude aussi de finalement remplir son mandat de merveilleux joueur offensif qui va monter à la volée, puis il a servi super bien également. Alors, tu joues deux simples au meilleur des trois manches, d'abord, deux contre deux, un contre un, là, les deux joueurs numéro deux de chaque pays, l'un contre l'autre, et puis tout ça se joue pendant une semaine au complet. C'est sûr qu'il y aura plein de petits remaniements à faire parce que faudrait que ce soit un tournoi qui dure 10 jours et non pas une semaine seulement. Mm-hmm. Puis on a le double qui se joue en dernier. Et Shapovalov a joué beaucoup de doubles cette année avec Bopana, qui est un vétéran, un excellent joueur de double, qui lui a montré beaucoup, qui s'est beaucoup amélioré. Puis on sait que Vacek est champion de Wimbledon en double. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Puis ils ont été absolument hallucinant. J'étais dans mon salon, je te mens pas, je criais, je sautais, je me réjouissais. C'est fantastique qu'ils ont réussi à faire, battre des nations comme les États-Unis, tu sais, des nations qui ont gagné beaucoup, beaucoup, l'Australie également. Puis c'est comme si tout tombait en place. On pensait que Nick Kyrgios allait jouer, il aurait été épeurant dans ces conditions-là. Apparemment, Leighton Hewitt voulait lui démontrer qu'une participation en Coupe Davis, alors qu'il avait joué les deux matchs précédents, ça se gagnait, ça se méritait au fil d'une année complète. En tout cas, tu sais, il y a plein d'histoires humaines aussi qui se passent à l'intérieur d'une compétition comme celle-là, puis les voilà qui filent jusqu'à la finale. Puis malheureusement, ben, écoute, c'est un jeune coach aussi, Frank Dantsevich. Il a réussi à les motiver, il a réussi à rester proche d'eux, il a réussi à nous amener jusqu'en finale. Mais c'est le genre d'épreuve, Jérémy, que tu ne peux pas gagner à deux têtes seulement. Mm-hmm. C'est trop demandant physiquement. Regarde l'Espagne. Tous les joueurs sur l'équipe ont joué durant la semaine. Il faut que tu te reposes à un moment donné. Puis ils font jouer Félix Auger-Aliassime, le premier simple en finale. Le kid, ça faisait 7 semaines qu'il n'avait pas joué, au-delà de 6 semaines en raison d'une blessure à la cheville. Il aurait fallu l'insérer à un autre moment donné, peut-être en double lorsqu'on a joué contre les Américains, puis qu'on a donné le match de toute façon. En tout cas, écoute, ça a été une semaine rocambolesque, rempli de bonheur, rempli de réjouissance, rempli de moments forts. Puis si Dennis avait été capable de gagner le deuxième set devant Rafael Nadal, qui lui aussi avait joué énormément, c'est lui qui a porté, évidemment, à être surpris, son équipe à bout de bras, il n'allait pas perdre hein, contre les siens en Espagne. S'il avait réussi à l'amener au troisième set, vu que Nadal s'est couché au moins deux fois durant la semaine à 5-6 heures du matin, parce que le double se terminait très, très tard, je pense qu'on aurait eu une chance en finale parce que, évidemment, tout aurait été possible avec le double. Mais ça a été vraiment un moment très, très fort. Et puis, ça nous fait réaliser jusqu'à quel point, comme je disais en début d'émission tout à l'heure, jusqu'à quel point ça s'attrape aussi. L'effet d'entraînement, là, c'est dans le bon sens quelquefois, puis nos joueurs y croient maintenant.
Allons voir maintenant, d'un point de vue personnel, Denis Shapovalov, qui a le meilleur classement maintenant chez les hommes canadiens, au 15e rang. Félix Auger-Aliassime, qui est 21e. Miloš Raonic, au 31e rang. Débutons avec Denis Shapovalov. Comment tu la qualifies cette année pour Chapeau?
Ben, il y a eu des hauts et des bas, mais comme tout le monde. Hein, pense juste au jeune Stefanos Tsitsipas, qui a commencé avec une performance extraordinaire en Australie, en battant Roger Federer. 0 en 12 en balle de bris aura été Federer. C'est rendu jusqu'en demi-finale. Il a été stoppé par Nadal. Puis là, il a connu un grand moment creux. Puis, il a fini l'année en force avec le championnat de fin de saison en battant Dominic Thiem. Les années sont tellement longues. Ça a été la même chose du côté de Denis Shapovalov. Ça a été quand même un beau début d'année. Souviens-toi que lui aussi, tout comme Félix Auger-Aliassime, il a fait la demi-finale au tournoi de Miami, qui est un immense tournoi. Mais par la suite, sur terre battue, les choses ont été moins bien. Son attitude sur le terrain était franchement très, très, très ordinaire. Et on est allé chercher un nouveau coach. L'ancien joueur Mikhail Yuzny, qui, comme lui, est russe, n'est-ce pas? Parce que faut pas oublier qu'il est de parents russes, Denis Shapovalov, il est né à Tel Aviv, citoyen du monde, établi depuis longtemps dans le nord de Toronto. Mais quoi qu'il en soit, il y a une belle chimie puis un beau respect entre les deux, parce que Yuzny, avec un jeu moyen, est 8e au monde. Tu sais, c'est quand même pas banal d'être capable d'extirper le meilleur de son jeu et d'avoir quand même un placement comme celui-là et d'avoir gagné des titres sur le circuit. Alors, on a senti que Denis avait un immense respect, puis il a réussi à le calmer, à lui faire comprendre que tu peux pas frapper à tour de bras un retour de service sur une balle qui vient à 130 000 à l'heure vers toi. Il a fait quelques ajustements dans son jeu et soudainement, ben, il est devenu vraiment formidable sur le terrain. Et de façon concrète, ben, ça a voulu dire que Denis a été capable d'aller chercher un beau titre à Stockholm, un premier de la série 250, mais un premier chez les pros. Et puis par la suite, ben, concours de circonstances, Gilles Simon et Rafael Nadal qui ne se présentent pas en demi-finale au tournoi de Paris-Bercy, qui est un tournoi de la série 1000, ils s'inclinent en finale devant Novak Djokovic, donc un premier grand moment de ce côté-là aussi. Et puis, évidemment, ben, rappelons ces belles victoires en Coupe Davis devant Karen Khachanov, devant Taylor Fritz, devant Matteo Berrettini, qui est 8e au monde. Alors, Denis, c'est pour ça qu'il a coiffé, finalement, Félix Auger-Aliassime au classement. Donc, un jeune joueur de 20 ans seulement, 15e au monde, ben, les choses regardent bien, puis on espère qu'il va continuer de grandir en sagesse. Il va continuer de développer son jeu, puis il va continuer de développer cet élément si important pour un jeune joueur talentueux et puissant comme lui, soit la maturité.
C'est incroyable. On a l'impression qu'on est à des années-lumière que de se souvenir de cet événement où Shapovalov flanque une balle dans l'œil de l'officiel. Mmh. Et là, on le voit qu'il est encore fougueux, mais beaucoup plus en contrôle sur le terrain.
Oui, parce que évidemment le niveau de jeu, puis c'est ce qui est difficile, tu sais, c'est pas de battre un joueur de très très grande qualité un jour donné. Il y en a plein qui sont capables de faire ça, mais c'est semaine après semaine, dès la fin décembre de l'année d'avant, faut que tu sois en Australie et que là tu te prépares et l'année va se terminer fin novembre. À un moment donné, tu sais, c'est sûr que tu peux pas, si tu n'arrives pas à faire la part des choses, que si tu es trop demandant envers toi-même, que tu n'arrives pas à l'extérieur du terrain à conserver ton énergie, à faire la part. Il faut que tu deviennes un homme ou une femme ou une personne très, très mature très rapidement. Puis là, on ne parle pas du succès qu'ils ont eu, nos jeunes. pense au succès et tout ce que ça peut représenter dans le monde professionnel d'aujourd'hui, dans le monde du sport, il y a tellement d'argent. Alors, ça peut monter à la tête, évidemment. Tu passes d'un kid qui quête de l'argent parce qu'il n'y a pas un sou à quelqu'un qui a plusieurs millions de dollars assurés pendant plein d'années. Alors, c'est facile d'envoyer toute ton équipe promener. Puis ça dépend du tempérament de chaque personne aussi. Alors, il y a tout ça aussi qu'il faut savoir développer. Il faut que tu prennes des décisions et des décisions qui sont difficiles à prendre parce que tu n'as pas été nécessairement placé ou on t'a pas montré. Il faut que tu apprennes sur le tas, finalement. C'est ce que j'essaie de dire. Et il faut que tu apprennes vite.
Exactement. Il faut que tu prennes les bonnes décisions. C'est ça la différence. Oui. Je veux qu'on parle de Félix Auger-Aliassime, lui qui a terminé cette année au 21e rang mondial. On a l'impression qu'il a tout pour réussir. Il a la tête, il a le physique, il a l'attitude. Tu sais, si on aime Shapovalov, on a l'impression que Félix Auger-Aliassime pourrait faire davantage. Je sais pas comment toi t'as vu ça.
Bien, en fait, moi, ce qui m'a... tu sais, on parlait de la Coupe Davis tout à l'heure. Tu sais que tout a commencé pour Félix... en Coupe Davis, hein. C'est lui qui avait ramené au mois de février dernier le dernier point contre la Slovaquie le dimanche, l'ancienne formule, là, mais tu sais, au meilleur des trois manches contre la Slovaquie pour se qualifier pour le groupe mondial qui a eu lieu évidemment tout récemment en novembre. Et en battant Klizan, qui est quand même un vétéran qui a déjà été classé top 15, ma mémoire est fidèle, en tout cas qui était 38e au monde, et puis par la suite Gombos, mais tu sais, dans une atmosphère où t'es pas à la maison, dans un endroit où c'est hostile, c'est très compétitif, il a pris sa place, il a été un homme, puis il a amené le Canada, puis par la suite, tu te souviens, il est allé en Amérique du Sud pour essayer de se faire un peu plus de coffre, jouer beaucoup de matchs, c'était ça le but d'abord. Parce que moi, je me demandais pourquoi il va pas jouer à l'intérieur, tu sais, à Rotterdam, Marseille, ces tournois-là au mois de février. Parce que personnellement, avec le service qu'il a, puis sa qualité, son beau jeu vers l'avant, je pense que c'est ça. Personnellement, je pensais que c'était ça qu'on allait développer d'abord. Mais on a décidé de développer un peu plus l'aspect physique. Et c'est tout à fait normal, puis ils ont complètement raison d'avoir voulu faire ça. Et puis, les joueurs qui allaient en Amérique du Sud étaient peut-être... il y en avait moins de grandes qualités plutôt que tous ces joueurs comme Gaël Monfils qui veulent rester en Europe. Tu comprends? On veut pas aller se taper l'Amérique du Sud au mois de février. On veut être plus proche de la maison pour ce qui est des Européens. Mais il nous a surpris complètement en allant jusqu'à la finale au tournoi de Rio, en battant des joueurs comme Fabio Fognini, Pablo Cuevas. Il enchaîne avec une autre victoire contre Cuevas à Sao Paulo. Puis par la suite, ben il a bien fait des choses aussi. Il a une invitation au tournoi d'Indian Wells. En a profité pour se rendre jusqu'au troisième tour. Tu te souviens de ce match qu'il a perdu au bris d'égalité devant Nishioka? C'était extraordinaire comme performance. Tiré de l'arrière 5-1 dans le troisième set. Il a remonté. Il servait à 5-4 dans le bris d'égalité. Il l'avait! Puis là, ben la performance jusqu'à la demi-finale à partir des qualifications à Miami. C'est complètement fou, ça, c'est 8 matchs. Puis, il avait John Isner en demi, tu te souviens? Il venait 5-2 dans chacun des sets, puis il est devenu juste un tout petit peu nerveux devant ce qu'il était en train lui-même d'accomplir plutôt que de rester dans sa bulle. Ça, c'est facile à dire de l'extérieur, ouais. Mais difficile à faire lorsque tu es sur le terrain. Ouais, là, soudainement, c'est pas une panique qui t'arrive, c'est comme une espèce de moment où tu sors de ton match. Tu sais, c'est comme si tu es en train de te regarder jouer. Tu dis, waouh, mais c'est fou ce que je suis en train d'accomplir. Je vais être en finale à Miami. En tout cas, tout ça pour te dire qu'il y a eu plein de beaux moments. Une finale à Stuttgart sur gazon, et là, c'était parti. La finale avant à Lyon, en ATP 250. Malheureusement, il y a eu, pour lui aussi, des petites blessures qui l'ont retardé. Parce que se blesse à Lyon, ne peut pas jouer Roland-Garros. Et ça lui a nuit. Puis là, à la toute fin de l'année, ben une autre blessure, malheureusement. Puis aussi beaucoup de fatigue après la Coupe Rogers, où il était attendu comme... c'était comme la nouvelle arrivée de Jésus sur son trône, là, n'est-ce pas? C'était la folie furieuse. Il était partout, des immenses posters de lui. Ça, c'était un grand moment de stress. Puis il a bien fait les choses. Il aurait pu battre Khachanov, c'est à sa portée. Mais ce n'est que partie remise.
C'est de l'expérience, Hélène. Je pense que c'est de l'expérience aussi pour Félix Auger.
Tout le monde est sage quand même.
Ben oui.
Mais par la suite, on a vu qu'il était épuisé et à Cincinnati et à New York.
Donc, termine cette année au 21e rang mondial. Je veux terminer avec les garçons, avec Miloš Raonic, 31e joueur mondial. Et là, c'est toutes les questions de mécanique. Est-ce que la mécanique va tenir pour Raonic pour la prochaine année?
Ben, malheureusement, ça fait 4 ans qu'elle ne tient plus. On était rempli d'espoir pour Miloš qui a bien commencé l'année. Évidemment, Miloš est un joueur d'expérience. Avec son service, il est capable de faire plein de choses. Il a été 3e mondial. C'est pas par hasard tout cela, hein. Il a commencé donc avec une performance quart de finale aux internationaux d'Australie, enchaîné également avec une demi-finale à Indian Wells, mais par la suite, soit qu'il jouait peu, soit qu'il était toujours en train de revenir aux gens en raison de blessures, ou soit qu'il manquait un petit peu de match play pour bien retourner, et certains de ses matchs étaient très longs. Des bris d'égalité dernière manche, il en a joué beaucoup, mais à travers ça, il s'épuisait un peu. Mais quand même, on a 3 joueurs dans le top 32 au monde. On aura 3 joueurs chez les hommes qui vont être tête de série aux internationaux d'Australie. Alors, j'espère juste qu'il va être en santé pour essayer de jouer une année pleine. Il n'a joué que 14 tournois, dont 2 où il a été obligé de déclarer forfait. C'est très, très peu pour maintenir un grand standard de qualité.
Alors, Hélène, en terminant cette revue de l'année au tennis, on ne peut pas passer sous silence les 3 ténors. Nadal, Djokovic, Federer. Écoute, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut résumer ça en disant ce sont les 3 meilleurs et resteront encore les 3 meilleurs pour la prochaine saison?
Ben, il y a une chose qui est certaine. Si on parle du passé, on peut parler que le Big 3, encore une fois, a su banaliser l'exceptionnel. Hein? Quand on pense au match qu'aura livré Roger Federer à Wimbledon, il avait 2 balles de match au 5e set devant Novak Djokovic. Djokovic qui est revenu. Raphaël Nadal qui gagne un 12e Roland-Garros, ce qui est absolument hallucinant. Dire que Nadal, juste quelques semaines avant le tournoi de Barcelone, était en déprime totale. Il voulait même arrêter le tennis, seulement il n'aimait pas son attitude. Termine en force avec, évidemment, le grand champion que l'on sait, puis avec des performances tellement extraordinaires. Tu sais que Nadal, dans la dernière année, et c'est tellement hallucinant, il a peu joué parce qu'il a commencé l'année, puis il était très en retard sur les autres physiquement parce qu'il avait été blessé en fin d'année 2018. Mais Nadal, il n'y a eu qu'un seul tournoi où il n'a pas fait mieux que la ronde. Et juste un tournoi où il a perdu avant les demi-finales. Tiens, je vais le dire comme ça, ça va être tellement
incroyable quand même.
C'était au tournoi d'Acapulco, alors que une journée où Nick Kyrgios lui tentait de jouer au tennis, il avait d'ailleurs gagné le tournoi. Donc, Nadal, tout le temps, des finales, des titres ou demi-finales. Alors, il a fini par coiffer Djokovic, qui s'attendait vraiment pas à ça. Alors, ce sera intéressant, mais je ne crois pas, oui, ils vont encore dominer, parce qu'ils savent comment se comporter pendant 2 semaines pour gagner un grand chelem. Mais attention à Tsitsipas, attention à tous ces jeunes, Medvedev également. Mm-hmm. Est-ce que Dennis va être capable d'avoir un peu plus sa place contre les tout meilleurs? Est-ce que Dominic Thiem va être capable de continuer à progresser et peut-être arracher finalement un Roland-Garros? Alors tout ça, ça promet bien sûr, parce que les jeunes poussent, les jeunes avancent. Puis à tous les autres aussi, les Batista à goutte de ce monde, les Wawrinka un jour donné qui est capable de jouer encore de gros matchs, et Matteo Berrettini qui apprend très vite lui aussi a été top 8 cette année.
Alors, ça sera à suivre pour cette prochaine saison. Hélène, c'est tout le temps que nous avons. Je te remercie pour ce bilan de cette année au tennis. Je te souhaite des joyeuses fêtes et c'est toujours un très grand plaisir d'avoir la chance de te parler. Merci beaucoup, Hélène Pelletier.
Merci. Toi aussi, joyeuses fêtes.